Ce podcast est le premier d'une série de trois que je vais dédier aux sciences de la complexité, c'est-à-dire à l'ensemble des outils conceptuels, des modèles, des méthodes pour essayer de rendre compte, de décrire le comportement de l'univers dans son ensemble et à toutes ses échelles. Et Dieu sait si cette ambition est une ambition folle, parce que l'univers, même actuellement, nous paraît complexe et compliqué, deux mots proches dont on verra qu'ils ont une signification différente dans le futur. Donc, monde complexe et compliqué, que ce soit dans l'infiniment grand, avec les récentes observations qui nous renseignent sur les galaxies, les trous noirs, l'évolution de l'univers, et puis l'infiniment petit, avec les accélérateurs du CERN qui nous renseignent sur le monde agité des particules élémentaires. Sans compter qu'au milieu, à notre échelle humaine, la complexité des formes et des comportements paraît encore plus forte dans un monde qui va du virus aux organismes vivants et aux structures géologiques. Donc croire qu'on pourrait obtenir des lois et des paramètres universels pour décrire l'univers à toutes ses échelles est une ambition folle. Et pourtant, cette idée-là a déjà été exprimée au début du XIXe siècle par Laplace, qui était un mathématicien et astronome français, avec l'idée de son génie ou démon universel. C'est-à-dire qu'il a imaginé que si un génie avait la connaissance à un moment donné de toutes les positions des objets de l'univers et des lois et des forces qui les font interagir, eh bien, il serait capable de prédire le comportement de l'avenir et l'avenir de l'univers, aussi bien que son passé. Donc ce qu'on appelle le déterminisme absolu, la connaissance de l'état de l'univers actuel, serait la clé de la connaissance de son évolution future. Donc pour ceci, il suppose qu'il y ait des lois dites universelles. Et ça, c'est une idée récente dans l'histoire des sciences. Puisque, par exemple, les Grecs, qui ont été à l'origine de beaucoup de la démarche scientifique, étaient frappés par l'opposition entre la régularité, la prédictibilité du mouvement des étoiles et des planètes, même si les planètes étaient un peu plus fantasques, et puis par rapport à l'évolution des choses sur Terre, où les objets et les êtres ont un comportement imprévisible. Donc, ils voyaient dans la Lune et les étoiles des mouvements réguliers, immuables, reproductibles, qui leur permettait de prédire, par exemple, des phénomènes comme les éclipses. Donc, pour les Grecs, l'idée qu'il y ait des lois pour ce monde supralunaire, on parlait de nom supralunaire, c'est-à-dire la Lune, les soleils, les planètes, les étoiles. Donc, l'idée qu'il y ait des lois pour ce monde apparaissait tout à fait évidente, avec des modèles comme, par exemple, celui de Ptolémée. Mais pour imaginer qu'il y ait de telles lois pour le monde sous la Lune, c'est-à-dire le monde sur notre Terre, avec sa complexité inouïe, eh bien cela apparaissait impossible, sauf à admettre qu'il y ait des lois spécifiques adaptées à ce contexte particulier. Donc on imagine mal la révolution dans les idées qu'a constituée la loi universelle de la gravitation de Newton, au fin 17e, début 18e. Parce que c'est une idée folle dans la mesure où on pouvait estimer, raccorder les lois du monde supralunaire avec les lois du monde sublunaire, c'est-à-dire la chute de la pomme sur Terre avec la rotation de la Lune autour de la Terre, tous deux phénomènes étant reliés par une seule loi. C'est une idée révolutionnaire dont on a peine à se rendre compte actuellement puisqu'elle nous paraît tellement évidente. Eh bien, les savants français ont mis près d'un siècle à s'approprier cette idée-là, avec notamment la traduction par Émilie du Châtelet, l'ami de Voltaire, des œuvres de Newton. Parce que c'était une idée vraiment révolutionnaire. Alors, où est-ce que cette révolution prend sa source? Eh bien, elle prend sa source fin 16e, début 17e et jusqu'au début du 18e siècle, avec ce qu'on appelle la révolution de la méthode scientifique. Alors, comment caractériser cette méthode? Bien, pour faire schématique, pour faire court, eh bien, on pouvait dire que les Grecs, qui étaient à l'origine de la science, avaient une science dite observationnelle, c'est-à-dire qu'on observe la nature, on essaie de trouver des régularités et on essaie d'en déduire des lois. Par contre, à partir du XVIe, XVIIe siècle, avec des philosophes comme Bacon, des physiciens mathématiciens comme Galilée, Newton, Descartes, etc., eh bien, on a commencé à aborder la méthode scientifique avec ses trois grands aspects différents, qui vont bien au-delà de l'observation. D'abord, l'instrumentation. l'idée qu'on ne peut pas se contenter de l'observation de la nature avec nos sens, qui sont limités, mais qu'il faut la complémenter par des instruments. Ceci, bien sûr, étant lié à l'apparition d'outils comme la lunette astronomique, dont Galilée était un des premiers utilisateurs, ou un peu plus tard, le microscope pour observer l'infiniment petit. Donc, l'instrumentation permet d'aller bien au-delà de la limite de nos sens, ce qui posait des problèmes philosophiques, puisque les cardinaux qui discutaient avec Galilée estimaient que si Dieu ne nous a pas permis d'observer avec nos sens les microbes ou les lunes de Jupiter, c'est qu'on n'avait pas à s'en préoccuper, et on devait se préoccuper que du monde tel qu'il nous apparaît. C'est une idée philosophique importante puisqu'elle se sera développée plus tard, notamment avec la mécanique quantique, et on verra que l'instrumentation dans l'infiniment petit joue un rôle essentiel, mais surtout joue un rôle difficile à modéliser puisque l'observation elle-même modifie la nature qu'on observe. Quand on observe un atome avec des rayonnements, on modifie le comportement de l'atome. Donc l'instrumentation va se développer et quand on connaît les accélérateurs du CERN actuellement, ou les satellites, ou l'instrumentation médicale, on voit le rôle qu'elle joue dans le développement de la démarche scientifique. Deuxième aspect, l'expérimentation. Et c'est une idée qui pourrait s'en rapprocher, mais qui est quand même différente. L'expérimentation, c'est-à-dire, est liée un petit peu à la notion de laboratoire. C'est-à-dire que quand on étudie un phénomène de la nature, plutôt que de l'observer dans la nature, eh bien, on va isoler ce phénomène de son contexte qui peut être difficile, qui peut interférer, pour l'étudier en laboratoire. Pour être plus concret, Galilée, par exemple, qui étudiait la chute des corps, eh bien, bien sûr, a peut-être fait tomber de la tour de Pise des différents objets, mais il a vraiment élaboré sa théorie dans un laboratoire avec des plans inclinés, différents systèmes lui permettant de mesurer l'effet de la gravitation. Donc l'expérimentation, c'est l'invention du laboratoire et donc de l'extraction de la nature du phénomène que l'on veut observer pour l'isoler de son contexte et pouvoir l'étudier de manière plus précise. Et enfin, j'allais dire presque surtout, le troisième pilier de la démarche scientifique élaborée à cette époque, c'est l'abstraction. Là, et surtout l'abstraction mathématique. C'est-à-dire que, comme disait Galilée, les mathématiques sont l'alphabet avec lequel est écrit le livre de l'univers. Et Newton en a été un des principaux promoteurs parce que non seulement il a promulgué la loi de gravitation universelle, mais il était à l'origine, avec Leibniz, du calcul infinitésimal, donc des outils mathématiques qui étaient susceptibles de pouvoir utilisés pour étudier les conséquences de ces lois dans les mouvements des planètes et de tous les objets. Et ceci était le début d'une démarche parallèle entre l'avancée de la physique et l'avancée des mathématiques. Quelquefois, les mathématiques étant en avance sur la physique, et quelquefois c'est l'inverse. Par exemple, en mécanique quantique, eh bien, la physique, quand elle a élaboré ses concepts, il s'est trouvé que les outils mathématiques étaient déjà prêts. Dans d'autres cas, comme Newton, qui a dû inventer ces outils mathématiques, ou dans d'autres cas, eh bien, c'est les physiciens qui ont demandé aux mathématiciens de développer des outils nouveaux. Donc voilà, la démarche scientifique qui démarre disons, au XVIIe est composée sur trois piliers, l'instrumentation, l'expérimentation et l'abstraction mathématique. Eh bien, ces trois piliers-là ont été à l'origine d'une démarche très, très, très fructueuse qui est à la source, j'allais dire, des résultats de la science moderne au début de ce 21e siècle-là. Parce qu'elle a été à l'origine de ce qu'on appelle une démarche qu'on appelle la quête de l'unité. On va voir que cette démarche-là, c'est une démarche dite réductionniste, qui est née avec le philosophe Descartes, qui a été formalisé par Descartes, en disant si les choses nous paraissent compliquées, si on a des problèmes complexes à résoudre, eh bien, il faut le décomposer en sous-problèmes apparemment plus simples, que l'on va résoudre séparément, et ensuite, après, on reconstituera le système de départ dans toute sa complexité. Donc, cette démarche que l'on attribue souvent à Descartes, qu'on appelle le réductionnisme, va s'avérer extraordinairement puissante et est à l'origine de ce fameux zoom qu'on peut faire entre notre échelle à nous et l'infiniment petit composé de particules élémentaires. Donc, la démarche réductionniste, c'est une quête de l'unité, puisque on va essayer de défaire le Lego du monde, ce monde qui nous entoure, et essayer de le ramener à quelques briques essentielles dont on maîtrisera le comportement. Et on va voir dans ce podcast les principaux succès de cette démarche. Donc, quête de l'unité. Mais une fois qu'on a trouvé les Legos de base, est-ce qu'on est capable de reconstituer la complexité de l'univers elle-même? C'est la démarche inverse, et on verra qu'elle fera l'objet des deux autres podcasts, c'est de savoir si on peut, à partir des composants que l'on connaît mieux de l'univers, on peut reconstituer la complexité et le comportement global de tous les systèmes qui nous entourent. Est-ce que à partir des rouages d'une montre, je peux remonter, retrouver la montre et surtout le fonctionnement de la montre et la mesure du temps. Donc, cette démarche-là, réductionnisme, sera complémentée progressivement à partir du 19e siècle et puis va trouver son apogée au milieu du 20e siècle dans ce qu'on appelle la science de la complexité. Mais derrière cette démarche inverse entre quête de l'unité et remontée vers le complexe, eh bien, il y a toujours la parabole du démon de Laplace. Est-ce qu'il est possible de reconstruire la complexité du monde à toutes ses échelles si on connaît les lois et les composants élémentaires? Est-ce que, par exemple, on peut expliquer les virus à partir des quarks dont on sait qu'ils sont les composants élémentaires? Très bien sûr, tout le monde se dit que ça doit être extrêmement difficile. Mais une question plus fondamentale se pose, c'est est-ce que c'est un problème de technique, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème pratique? On n'a pas les moyens de faire le calcul pour trouver ces propriétés-là, sachant que les ordinateurs devenant de plus en plus puissants, ce problème technique va peut-être un jour se résoudre. Ou est-ce qu'il y a un problème plus profond? Est-ce que le tout est la somme des parties? Est-ce que les propriétés collectives peuvent se ramener à la somme des propriétés des composants? Est-ce qu'un être vivant peut se ramener à la somme des propriétés de toutes les molécules qu'il compose? On le voit que d'ailleurs là, il y a des problèmes à la fois philosophiques et scientifiques d'une extraordinaire complexité et qui seront l'objet des podcasts qui vont suivre. Eh bien, si on fait un parallèle avec les mathématiques, on verra que l'équivalent du démon de Laplace, c'est un petit peu la conjecture de Hilbert. Hilbert était un grand mathématicien qui, au début du 19e, du 20e siècle, prenant en compte les progrès inouïs des mathématiques qui ont mis en place et découvert des structures très diverses, très complémentaires, dont on a étudié les propriétés, les équations, les théories, les ensembles, les groupes, etc. On s'est posé vite la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, à la base de ce magnifique échafaudage mathématique, quelques ingrédients de base, quelques composants de base, quelques règles de base qui permettent de la reconstruire et donc reconstruire l'édifice des mathématiques sur des bases simples mais solides. C'est un enjeu que Hilbert avait posé au XIXe siècle. Malheureusement, eh bien, il devait découvrir avec le théorème de Gödel dans les années 1930 qu'il y a, il y a des problèmes beaucoup plus fondamentaux qui rendent ce problème-là impossible. Donc, la démarche inverse, on le voit, si la démarche réductionnisme a été très efficace, la démarche inverse va poser, on va le voir, des problèmes techniques et des problèmes j'allais dire presque philosophique, plus fondamentaux. Et cette démarche inverse, on en apercevra très vite les difficultés, parce que par exemple, au début du XXe siècle, un grand mathématicien comme Poincaré, qui était extrêmement féru de toutes les mathématiques nécessaires pour la physique, a commencé à pointer du doigt qu'il y avait des problèmes fondamentaux qui faisaient que ces équations-là, toutes belles, toutes précises qu'elles étaient, n'étaient pas forcément capables de prédire le comportement de certains systèmes. Donc on le voit, à la quête de l'unité, projet un peu fou, mais qui s'avère extraordinairement efficace à notre échelle, va progressivement se superposer un projet inverse, qui est la remontée de la complexité pour essayer d'expliquer le monde à partir de ses composants. Alors, la suite de ce podcast, je vais essayer de vous donner les grands principes acquis, les grands acquis de la quête de l'unité. Bien sûr, en une demi-heure, exposer toute la physique moderne, eh bien, c'est un projet complètement fou. Mais quand même, je vais essayer de vous donner quelques principes parce que pour la suite, quand on voudra traiter de la démarche inverse, il est important de s'appuyer sur ces acquis-là. Et en fait, dans les années 2020 du 20e siècle, on peut ramener la physique, c'est-à-dire l'évolution de l'univers à toutes ses échelles, à quatre grands principes qui ont été éclaircis progressivement. Alors d'abord, le premier, c'est la notion d'espace-temps. Très vite, les gens se sont rendus compte que on évoluait dans un espace à trois dimensions, avec par exemple sur la Terre. La Terre, la longitude, la latitude et l'altitude, et puis il y avait le temps, le chronomètre. Et c'était bien deux choses très séparées. Il y avait un temps universel et puis il y avait l'espace. Les choses sont devenues un peu plus compliquées lorsque Galilée a donné un grand coup de canif à tout ça, avec la notion d'invariance galiléenne. Pourquoi? Parce que si initialement et philosophiquement, et les religions s'appuyaient beaucoup pour ça, on imaginait qu'il y avait un cadre fixe, un espace fixe, basé sur la Terre, centré sur l'homme, il y avait un temps universel. Galilée va déjà d'abord démontrer que ceci était une vision trop partielle, parce que, par exemple, il a démontré que les événements, la physique, les lois, sont les mêmes lorsque elles sont exprimées dans deux référentiels qui sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Il prenait l'exemple, vous êtes en haut du mât d'un bateau, vous lâchez du haut du mât un caillou, il va tomber sur le plancher du bateau. Eh bien, il tombera de la même façon si le bateau est immobile ou si le bateau est en mouvement monotone régulier. Donc, il n'y a pas de repère fixe, il n'y a que des repères qui sont, disons, équivalents les uns aux autres. Donc, l'invariance galiléenne est une révolution qui a détruit beaucoup d'idées philosophiques, puisque cela veut dire qu'il n'y a pas d'espace fixe, notamment pas d'espace de référence pour l'humanité. Nous étions qu'un élément dans un espace beaucoup plus général. Des idées tellement fortes qu'elles ont conduit au bûcher des gens comme Bruno Giordano. Par contre, le temps est universel. Ensuite, au XIXe siècle, une autre révolution va rajouter de la complexité. Parce que le temps universel de Newton, notamment, qui d'ailleurs lui posait quelques problèmes, va être remis en cause parce que Maxwell a essayé de trouver les équations qui gouvernaient l'électromagnétisme, c'est-à-dire les lois de l'électricité et des aimants. Il a trouvé des lois extrêmement puissantes qui expliquent tout l'électromagnétisme, sauf que ces lois s'avèrent incompatibles avec l'invariance galiléenne. On ne peut pas exprimer de manière unique les équations dans deux référentiels qui sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Et à ce moment-là, dans le même temps, on venait de découvrir que la lumière ne se propageait pas de manière instantanée, mais que la lumière avait une vitesse limitée, et que cette vitesse était constante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accélérer la lumière en la lançant d'un repère mobile. La lumière des phares avant d'une voiture ne va pas plus vite que la lumière des feux rouges à l'arrière. Donc l'invariance de la lumière, plus la notion des équations de Maxwell, va introduire ce qu'on appelle la relativité restreinte, qui va faire que le temps et l'espace, qui au départ étaient deux entités très séparées, vont devenir un espace-temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer séparément l'espace et le temps, et que par exemple des phénomènes qui nous paraissent évidents, comme la simultanéité, bien, on ne peut plus définir deux événements simultanés s'ils ne sont pas dans le même référentiel. Par exemple, on ne peut pas dire actuellement, je suis sur Terre ici à faire un podcast, et en même temps, il y a un volcan qui est sur Mars. La notion de en même temps n'existe pas dans la relativité restreinte. Et puis, pour chambouler le tout encore, Il restait quand même quelques principes assez simples à imaginer et des lois assez simples pour réguler l'espace-temps. Et puis est venue en 1920 la relativité générale d'Einstein, qui va rendre les choses encore plus compliquées, puisque l'espace-temps lui-même n'est plus est modifié par la matière et l'énergie qu'il héberge. Alors, ce qui est le paradoxe de la relativité générale, c'est que les objets, la matière, l'énergie se propagent dans l'espace-temps, mais l'espace-temps lui-même va évoluer en fonction de l'énergie de la matière qu'il transporte. Donc, la relativité générale a fait un concept unique, ou quasiment unique, entre l'espace, le temps et la matière. Donc, on le voit en 2 ou 3 siècles comment la notion d'espace et de temps a évolué. Et puis, je vais aborder un problème qui est beaucoup moins connu, mais qui est la notion de symétrie. En fait, quand on regarde d'un œil un petit peu abstrait et froid, tout ce qui se passe dans l'univers, on voit des tas de choses qui bougent. On appelle ça la dynamique. Qu'est-ce qui fait que les objets bougent? On verra qu'il y a des forces sont à l'origine, mais derrière, il y a un concept plus compliqué, c'est que quand, par exemple, une planète suit une trajectoire, on verra aussi, c'est vrai pour les particules élémentaires, même si c'est un peu plus complexe, par quel principe la trajectoire fait que telle trajectoire est suivie et pas une autre? C'est un principe qui avait déjà commencé à être abordé au XVIe siècle par Fermat, qui est aussi un mathématicien avec son théorème bien connu, lorsqu'il a étudié la propagation de la lumière, avec par exemple les lois de la réflexion de la lumière sur un miroir ou la loi de la réfraction de la lumière quand elle traverse l'interface entre l'eau et l'air, eh bien, il avait émis un principe qu'on appelle le principe de Fermat en disant que la lumière ne choisit pas le chemin le plus court, elle choisit le chemin le plus rapide. Et en fait, pour compléter, on dira que parmi toutes les trajectoires possibles, eh bien, la lumière va prendre celle qui passe par un optimum, souvent un minimum. Eh bien, ce principe-là va être généralisé à l'ensemble de tous les objets de l'univers avec le principe de Maupertuis-Lagrange, qu'on appelle le principe de moindre action. Alors, c'est un petit peu amusant de voir que le moteur de la dynamique des choses dans l'univers, c'est la paresse, puisque la moindre action fait penser à l'inertie. Mais ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'en chaque point d'une trajectoire d'un objet, eh bien, il y a une quantité qu'on appelle l'action, et l'action, c'est le produit d'une grandeur qu'on appelle le lagrangien par un pas de temps. Eh bien, cette quantité-là, quand on fait la somme de tous les pas de temps dans la trajectoire, donne une certaine valeur. Eh bien, la trajectoire effectivement suivie par l'objet sera celle dont la somme des actions est minimum. La somme des actions, c'est la somme des lagrangiens multipliés par le pas de temps. Alors, on prend souvent une image du nageur sauveteur pour essayer d'illustrer ça. Si vous voulez aller sauver quelqu'un qui se noie dans la mer et que vous êtes sur la plage, eh bien, comme vous courez plus vite sur la plage que vous nagez dans l'eau, vous n'avez pas intérêt forcément à aller en ligne droite. Vous aurez quelque part à combiner une trajectoire qui optimise le temps que vous passez à courir sur la plage avec le temps qui reste à nager dans la mer. Vous ne faites que mettre en place le principe de moindre action de Maupertuis-Lagrange. Alors, ce principe-là, qui paraît assez abstrait dans l'absolu, et c'est vrai, il a donné lieu à tout un ensemble de domaines de mathématiques qu'on appelle le calcul des variations, qui permet donc de calculer, à partir d'un lagrangien donné, d'un système, de calculer sa trajectoire. C'est actuellement un outil de base qui est utilisé à toutes les échelles, puisqu'on parle du lagrangien pour les trajectoires des planètes ou des étoiles ou des fusées, mais aussi en mécanique céleste, mais aussi dans la mécanique des particules élémentaires. Pourquoi ce grand principe a des applications? C'est parce qu'il a été étendu par une mathématicienne malheureusement très peu connue, pas assez connue, qui s'appelle Emmy Noether, autrichienne, qui a eu le malheur d'être juive à l'époque où Hitler commençait à s'intéresser à l'Autriche, et qui a énoncé un théorème d'une puissance phénoménale, puisqu'elle a démontré que quand le lagrangien d'un système, cet objet mathématique qui le caractérise, possède certaines symétries, eh bien, à ce moment-là, le système a des grandeurs qui sont conservées. Alors, ça va être plus concret. Prenons par exemple la conservation d'énergie. Très vite, on s'est rendu compte que les différentes formes d'énergie dans les systèmes, quand on transforme de l'énergie dans une autre, la forme de l'énergie change, mais la conservation, l'énergie totale ne change pas. C'était un principe. Eh bien, d'après Émile Noether, ce n'est pas un principe, c'est simplement la conséquence du théorème, de son théorème, savoir que le Lagrangien qui est indépendant du temps, quel que soit le système, vous pourrez toujours une énergie conservée. Vous me direz, ça me paraît assez évident, mais déjà, dans la pensée, la conservation de l'énergie n'est pas une espèce de loi qui nous tombe du ciel, c'est quelque chose qui se déduit d'un principe plus fondamental. Mais il y en a d'autres, comme par exemple l'effet gyroscopique. Tout le monde connaît le gyroscope qui pointe vers une direction fixe dans l'univers et qui est à la base du guidage des fusées, par exemple, et des satellites. Un corps en rotation, à symétrie axiale, eh bien, va conserver toujours la même orientation s'il n'est pas soumis à d'autres forces. Eh bien, ça, c'est une conséquence de la symétrie du Lagrangien. Tout système qui a un Lagrangien invariant par rotation, par symétrie axiale, eh bien, aura la conservation d'une grandeur qu'on appelle le moment angulaire. Donc, l'effet gyroscopique n'est qu'une des conséquences de ce grand principe de moindre action développé par Émile Noether. Et enfin, quand on ira vers l'infiniment petit, on trouvera de plus en plus de lois de symétrie, de conservation, qui contraignent de manière beaucoup plus importante le mouvement, la dynamique de l'infiniment petit. Eh bien, prenons un exemple, le seul peut-être que nous connaissons bien à notre échelle, c'est la conservation de la charge électrique. Peut-être avez-vous appris dans les lycées que quand on ajoute des charges électriques positives à des charges électriques négatives, eh bien, la somme algébrique est constante, quelles que soient les transformations que l'on fait. Eh bien, cette conservation de la charge électrique est le résultat du fait que le Lagrangien de l'électromagnétisme a une symétrie interne, un peu plus complexe à formuler, qu'on appelle une symétrie de jauge. Et donc la conservation de la charge électrique n'est pas un principe qui tombe du ciel, c'est simplement une des conséquences du théorème d'Noether. Donc on le voit que la physique moderne montre que l'ensemble de l'univers est gouverné par un grand principe, le principe de moindre action, et qui est à l'origine de beaucoup des propriétés que nous observons dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ensuite, maintenant, pour terminer, j'irai très vite, même si c'est l'objet souvent des années d'études pour faire le tour, eh bien, il y a les forces. Le Lagrangien, il est construit à partir de forces. Eh bien, en fait, quand on observait en chimie, notamment au XIXe siècle, on observait des forces entre les molécules très particulières. On a mis en place ce qu'on appelle des forces phénoménologiques. Et quand on regarde tout ce qui nous entoure, comment la table sur laquelle je travaille, comment elle reste cohérente, comment elle ne s'effondre pas, comment les arbres tiennent debout, etc., on a l'impression que tout ceci est gouverné par des multiples forces. C'était un immense effort de la science moderne de ramener, de montrer qu'il n'y a que quatre forces dans l'univers, que quatre. Et que tout ce que nous pouvons observer comme interaction entre des objets ne sont qu'une combinaison de ces forces-là. Alors, la première, bien sûr, c'est la loi de gravitation de Newton, qui fait que tout objet qui a une masse va attirer les autres objets qui ont une masse aussi. La deuxième, dont j'ai parlé, qui est l'électromagnétisme, avec les équations de Maxwell, qui gouvernent l'interaction entre les objets, les charges électriques et les aimants et les champs électriques et les champs magnétiques. Eh bien, ces deux forces-là sont extrêmement importantes parce qu'elles sont à longue portée, c'est-à-dire que, a priori, elles décroissent, mais elles n'ont pas de limite. A priori, la limite mathématique, c'est l'infini. Et puis, on avait mis longtemps à trouver deux forces qui, elles, sont des forces de contact, qui sont à l'origine de la cohésion de la matière, et qui sont des forces de contact puisqu'elles sont à très courte portée. Quand on parle de courte portée, on parle ici du millième, de milliardième, de millième de mètre. Donc on est vraiment des forces de contact. Alors il y a la force nucléaire forte, celle qui est à l'origine de la cohésion de la matière, puisque c'est celle qui colle les protons, qui est la source de la cohésion des protons et des neutrons, et donc des noyaux, et donc des atomes. Et puis une force nucléaire faible, qui elle est à l'origine de la radioactivité, notamment radioactivité bêta, utilisé en imagerie médicale, mais aussi cycle du soleil qui explique transformation de l'hydrogène en élément plus lourd et qui était à l'origine de l'activité du Soleil. Donc quatre forces fondamentales à laquelle récemment on a ajouté une cinquième, mais une cinquième qui n'est active, qui n'a été active qu'au début de l'univers, quelques milliardièmes de secondes après le début du Big Bang, qui est l'interaction de Higgs, qui est à la source de la masse des choses. On s'est posé la question pourquoi les électrons ont telle masse, pourquoi les protons ont telle masse, pourquoi les objets ont une masse, et on a pu retracer ça par une force, cinquième force qu'on appelle l'interaction de Higgs. Donc, le cadre, l'espace-temps, dont on a vu qu'il était extrêmement malléable et fluctuant, les symétries et les invariances avec le principe de moindre action et les symétries et le théorème de Noether, qui sont eux des cas très fermes, très formels, qui nous donnent beaucoup de contraintes à l'évolution de la dynamique des choses dans l'univers, les forces que l'on vient de voir, qui se manifestent à notre échelle de façon très diverse, mais qui au départ se ramènent à quatre forces élémentaires. Et puis enfin, les choses, les constituants qu'on appelle les particules élémentaires. Et là aussi, il faudrait un peu de temps pour faire l'inventaire de ce zoo de particules. Longtemps, on a cru que la matière était constituée de protons et de neutrons dans le noyau atomique avec autour des électrons. Désormais, le bestiaire des particules élémentaires s'est beaucoup enrichi. Mais on en a fait une étude assez systématique et désormais on connaît les constituants de la matière, on connaît les particules qu'on appelle les bosons vecteurs, c'est les particules qui vont véhiculer les interactions entre ces particules-là. Donc on a une espèce de table de Mendeleïev, on a les différents types de Lego qui constituent la base de l'univers. Alors, est-ce que c'est définitif? Est-ce que on a tout fait le tour des constituants? En physique, on ne doit jamais dire jamais, mais on peut quand même estimer, après le recul de 50 ans de recherche en particules élémentaires, que ce que nous connaissons actuellement de ces particules-là est suffisamment stable pour constituer un plancher sur lequel on va pouvoir reconstituer la complexité du monde. C'est-à-dire que peut-être on trouvera d'autres particules, peut-être on trouvera que ces particules dites élémentaires sont peut-être des cordes ou je ne sais pas quels sous-éléments. Mais ces sous-éléments, s'ils existent, sont à des échelles d'énergie telles qu'elles auront peu d'influence sur les phénomènes que nous étudions dans notre monde actuel. Voilà. Donc le tour a été fait. Je vous ai donné dressé en quelque temps le résultat de cette démarche scientifique qui est partie au XVIIe siècle, basée sur l'instrumentation, l'expérimentation et l'abstraction mathématique, qui a donné lieu à toute une quête de l'unité, qui ramène la complexité de l'univers à quelques composants et principes de base, et à partir desquels on peut être espérer remonter dans la suite des opérations. Mais cette plongée vers l'infiniment petit, vers les briques de l'univers, s'est accompagnée d'une sophistication mathématique d'autant plus forte, et donc d'une certaine incapacité à avoir des représentations mentales de notre univers. Et ça, c'est une frustration de tous les scientifiques lorsqu'ils veulent essayer d'expliquer le monde, l'univers à quelqu'un qui n'est pas du domaine, c'est qu'on ne peut pas avoir de représentation mentale simple, parce que souvent les représentations sont le résultat d'outils mathématiques compliqués. Donc on a à la fois le paradoxe, c'est que la quête de l'unité a permis de mieux comprendre la constitution de l'univers à toutes ses échelles, mais souvent au prix d'une abstraction qui nous rend impossible la perception mentale de cette construction. C'est-à-dire qu'on explique, on prédit, mais est-ce que ça veut dire qu'on comprend le monde? Alors, pour faire la boucle avec le début de l'exposé, je vais terminer par Laplace. Laplace, nous voilà. On a les briques, on a les règles de construction. Est-ce qu'on peut remonter vers la pente vers la complexité? Laplace dirait oui. Vous prenez tous les objets de l'univers avec les règles de construction et après, vous pourrez imaginer le futur et remonter le passé. Comme on l'a déjà dit, si ce n'est qu'un problème technique, peut-être que les ordinateurs vont essayer de progresser dans cette direction. Sinon, si derrière il y a plus quelque chose de plus fondamental, et on verra que dans les podcasts suivants qu'il y a des choses beaucoup plus fondamentales derrière, eh bien, il y aura peut-être un abandon ou l'idée qu'on ne pourra jamais peut-être reconstituer l'univers à partir des bases que nous connaissons. L'exemple des mathématiques nous montre que c'est déjà le cas dans les objets abstraits que sont les objets mathématiques. Donc, en clair, pour faire court, est-ce que connaître l'articulation entre les quarks et les gluons nous aide à expliquer le virus du Covid-19? C'est tout l'objectif des sciences de la complexité. Donc, dans le podcast qui suit, on va voir d'abord les grandes techniques qui ont essayé de remonter vers la complexité, telles qu'elles ont été définies notamment au 19e puis au début du 20e siècle. Comment essayer d'expliquer les propriétés collectives des choses, un être vivant, un système planétaire, tout autre système, à partir des propriétés des composants? Est-ce qu'on peut expliquer la montre à partir de ces pièces détachées, puis ensuite en déduire la mesure du temps? Donc on verra les approches classiques qui ont eu beaucoup de succès. On verra que c'est la méthode dite de hiérarchisation, puis la physique statistique. Mais on verra que très vite que ces approches-là ont des limites. Alors, ceci nous conduira au troisième podcast, qui est vraiment dédié aux sciences de la complexité, pour étudier les nouveaux outils pour comprendre le comportement de l'univers avec des outils tout à fait nouveaux. Et on verra que, par exemple, les systèmes biomimétiques, comme les systèmes neuronaux artificiels ou l'intelligence artificielle, ne sont que les derniers avatars de cette recherche des sciences de la complexité pour essayer de reproduire et de comprendre notre univers. À bientôt pour le deuxième podcast.